Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Chronologique, c'est-à-dire rédigée sous forme d'annales, année par année, mois par mois. Mais tout ceci, c'était pour nous amener à la période qui me concerne réellement, c'est-à-dire, et à laquelle je me consacrerai entièrement à partir d'aujourd'hui, en tout cas pour cette année, qui est donc le dernier demi-siècle de la dynastie des Ming, c'est-à-dire plus ou moins la première moitié du XVIIe siècle. D'ailleurs, j'avais eu le temps de faire au moins allusion, la semaine dernière, aux transformations remarquables, radicales même, qui se font jour dans l'écriture autobiographique à partir, grosso modo, du tournant du XVIIe siècle. Des transformations dont une des conséquences les plus intéressantes pour ce qui nous concerne est qu'à partir de cette époque, le contenu, dirais-je, informatif, ou si vous voulez, factuel, des autobiographies, ou au moins de certaines d'entre elles, car les anciens formats et les anciennes conventions ne disparaissent pas pour autant, dans la mesure donc où ce contenu devient beaucoup plus riche et beaucoup plus varié. Je crois qu'on peut dire, au risque de simplifier un peu, que la fin des Ming est la période à partir de laquelle un certain nombre d'écrits à la première personne, comme j'ai dit, enfin comme je les appelle, et principalement d'autobiographies chronologiques, deviennent une source réellement originale, non seulement sur l'histoire de leurs auteurs respectifs, mais aussi sur l'histoire tout court, ce qui est donc en fait le thème de mes conférences de cette année. Pour anticiper sur la suite, je note qu'on constate un certain recul de ce mode d'expression pendant la première moitié des Qing, c'est-à-dire la fin du XVIIe siècle et plus ou moins la totalité du XVIIIe. Et s'il en est ainsi, c'est pour des raisons qui sont essentiellement politiques. En effet, généralement parlant, on peut dire que le régime mandchou, donc le régime de la dynastie des Qing, est un régime répressif et méfiant, surtout envers ses sujets chinois, et par opposition aux mandchous. Et c'est un régime qui prouvera à maintes reprises son efficacité lorsqu'il s'agit de contrôler ce qui se dit et surtout ce qui s'écrit. Les auteurs qui s'expriment sur eux-mêmes, qui racontent leur vie, ont donc tendance, sous les Qing, la première moitié des Qing, à être prudent. Mais ce contrôle politique se défera progressivement, et à vrai dire très progressivement, au début, à partir du tournant du XIXe siècle, surtout après 1820. Et c'est incontestablement une des causes du renouveau de l'autobiographie pendant ce dernier siècle des Qing. Mais là, encore une fois, c'est un aspect que je n'aurai pas le temps d'aborder cette année. La semaine dernière, j'avais aussi eu le temps de mentionner les deux aspects que j'ai prévu de développer aujourd'hui concernant donc ces transformations du début du XVIIe siècle auxquelles je viens de faire allusion. Et je les avais résumés, ces deux aspects, en parlant de façon peut-être un peu accrocheuse d'un certain degré de démocratisation, d'une part, dans le recours à l'autobiographie et, d'autre part, de la disparition d'un certain nombre d'inhibitions. Et c'est par ce dernier point que je devrais peut-être commencer, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'introduire quelques éléments ces dernières semaines. Vous vous souvenez peut-être, en effet, que j'ai parlé, j'ai un peu développé sur les notions d'individualisme et d'anticonformisme à propos de la fin des Ming, et j'ai aussi parlé de cette époque comme d'une époque inquiète, pendant laquelle beaucoup de gens se posent des questions sur eux-mêmes, sur leurs actions, sur leurs relations avec leur entourage proche et avec leur environnement social et professionnel, et sur leur rapport à la politique et à l'État, et plus généralement sur l'avenir du régime des Ming, dont ils sont les serviteurs et les sujets, qui commence en effet, le dit avenir, à soulever de sérieuses questions. Et toutes ces questions en ont conduit plus d'un, avais-je dit, à prendre un certain recul par rapport aux conventions sociales et politiques, autrement dit, par rapport aux contraintes qui, en temps normal, régissent les moindres aspects de la vie des membres, en tout cas de l'élite lettrée. Et ces incertitudes s'expriment, bien sûr, dans leurs écrits, et non seulement, bien sûr, mais c'est évidemment par leurs écrits, et uniquement par là, que nous pouvons aujourd'hui nous en faire une idée. Et elle s'exprime plus particulièrement, donc c'est pour ça que j'en parle, dans les textes autobiographiques que certains de ces auteurs de la fin des Ming ont laissés. À vrai dire, ce n'est pas la première fois que j'en parle, et vous m'excuserez de revenir ici, au moins en partie, sur certaines, mais en les développant, sur certaines généralités à propos de l'autobiographie en Chine, sous les Ming et sous les Qing, que j'avais évoquées dans mon cours de 2001. La question était alors de situer ce sous-genre particulier, que j'ai mentionné déjà plusieurs fois, même cette année, que sont ce que j'appelle les autobiographies professionnelles, rédigées par certains fonctionnaires, la plupart d'entre eux d'ailleurs des fonctionnaires du XIXe siècle. Et parlant de ça, à l'époque, je m'étais déjà référé à la distinction fondamentale que pose l'ouvrage de Pei Wu, dont j'ai remis la référence sur la liste d'aujourd'hui, dont j'ai parlé la dernière fois déjà, que pose cet ouvrage donc entre deux sortes d'écrits autobiographiques. Comme il le pose, il y a d'une part les textes dont les auteurs se situent et surtout se représentent eux-mêmes en se référant quasi exclusivement à un certain nombre de conventions, que ces conventions soient sociales ou intellectuelles ou autres. À la limite, ces narrations à la première personne n'ont pas d'autre objet que de placer leur auteur sous le regard de l'histoire, exactement comme dans une biographie chinoise conventionnelle. Et d'autre part, on a, je suis toujours cette distinction de Wu Pei, on a les textes de nature, dit-il, introspective et subjective, dont les auteurs cherchent moins à situer leur propre parcours par référence à des modèles ou à des impératifs extérieurs qui leur sont extérieurs, qu'ils ne s'attachent à mettre en évidence ce que leur expérience, leur vie, qui dans certains cas est présentée comme une sorte d'itinéraire spirituel, peut avoir d'unique. Et à montrer comment les événements extérieurs retentissent ou ont retenti sur leur personnalité et sur leur compréhension du monde. Et enfin, ils s'attachent bien souvent, ou certains d'entre eux en tout cas, à faire part au lecteur des réflexions que cela leur inspire. Pour les spécialistes de l'autobiographie, là, pas seulement en Chine, mais en général, historiens littéraires, disons, seule cette seconde catégorie de textes peut être considérée comme authentiquement autobiographique, au sens intime du terme, si l'on veut, et dirais-je aussi au sens moderne du terme. Tel qu'il a été illustré en Europe, à partir du XVIIIe siècle surtout, par un certain nombre d'œuvres, dont le modèle, peut-être la plus célèbre, pourrait bien être les Confessions de Rousseau. Modèle indépassable, si l'on en croit du moins les mots par lesquels s'ouvre ce texte de Rousseau, mots que je vous rappelle, je cite, Rousseau parle, « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. » Fin de citation. Mais il semble que Rousseau avait malgré tout un inspirateur, et je crois qu'il l'a dit lui-même, et cet inspirateur, c'était Saint-Augustin, dont les Confessions encore, au moins les premiers livres dans lesquels il parle de sa jeunesse, auraient en quelque sorte été une sorte d'exemple fondateur auquel se référeraient tous ceux qui se sont livrés, à ce genre d'exercice. Mais il va de soi qu'entre Saint-Augustin et Rousseau, la visée est tout à fait différente, et à tout point de vue, Saint-Augustin ne dévoilait pas sa vérité pour que l'humanité en soit informée, ce que fait Rousseau. Ce qu'il fait, c'est en fait de confesser ses errements à Dieu. Mais ça prend la forme d'une autobiographie qui est relativement intéressante à lire, beaucoup moins que Rousseau, je dois dire. En Chine, même si les écrits autobiographiques de Sima Qian, dont j'ai parlé la semaine dernière, donc sa postface du Shiti et puis la fameuse lettre à Zhenan, s'approche jusqu'à un certain point de ce qu'on peut appeler une confession, au moins dans certaines de leurs parties, mais il faut dire avec une concision qui nous met à des années-lumière de la discursivité de Rousseau, même s'il en est ainsi, il n'en reste pas moins qu'il faut attendre justement la fin des Ming, donc 17 ou 18 plutôt, pour rencontrer des textes qui d'ailleurs ne se présentent pas tous comme des autobiographies au sens technique du terme, des textes approchant un tant soit peu cette définition moderne de l'autobiographie que je viens d'esquisser. C'est-à-dire des textes dans lesquels on découvre, ne serait-ce que par endroits, une voix individualisée, dans lesquels on entend parfois une véritable personne, autonome dans ses actions et dans ses perceptions, contradictoire parfois, et non plus un personnage qui, en fin de compte, ne fait que jouer le rôle et occuper la place qui lui ont été assignées par la société. Qui plus est, et ce n'est pas sans rapport, qui plus est, les personnes qui s'expriment ainsi semblent parfois avoir perdu leur repère. Elles semblent percevoir le monde où elles vivent, et nous sommes donc dans le monde de la fin des Ming, elles semblent percevoir le monde où elles vivent comme un monde où les modèles et les références habituelles ne fonctionnent plus. Et il y a de bonnes raisons à cela, puisque, comme je l'ai déjà dit, la fin des Ming est une période de crise des valeurs, de crise sociale, de crise politique, et l'on ne sait souvent plus, en effet, vers qui se tourner. Et à l'extrême fin, c'est tout simplement le chaos, c'est une sorte de désordre généralisé qui gagne progressivement la plus grande partie du pays. Il y avait donc incontestablement de quoi y perdre ses repères. Et à ce propos, j'avais également cité dans ce même cours de 2001 une collègue américaine qu'on peut considérer, je crois, comme la grande spécialiste de la transition entre les Ming et les Qing, de ces années de chaos dont je viens de parler, donc, qui est donc Lynn Struve, dont vous avez le nom dans plusieurs références sur le papier, qui est professeure à l'Université d'Indiana. Je l'avais citée parce qu'elle s'est intéressée, parmi beaucoup d'autres choses, aux souvenirs consignés par une quantité d'auteurs ayant traversé cette époque, que ce soit des souvenirs rédigés sous forme d'autobiographie ou sous d'autres formes. Et dans un article qu'elle a consacré à ce sujet, donc c'est le premier des articles de Lynn Struve dont j'ai noté le titre, mais je ne sais pas où il est paru, en fait, parce que quand elle me l'avait donné, c'était avant qu'il soit imprimé, et je viens de lui écrire pour lui demander la référence bibliographique, mais je ne l'ai toujours pas. Je vous l'indiquerai quand je la recevrai. Donc, dans cet article qui date donc de... Le manuscrit date à peu près de 2000, je crois. Lynn Struve s'inspire de l'opposition suggérée par Pei Wu, donc, à laquelle je viens de faire allusion, entre autobiographie conventionnelle, d'une part, et témoignage subjectif, voire même introspectif, d'autre part. Elle s'en inspire pour souligner à quel point la transition entre les Ming et les Qing aura été une période où foisonne de façon étonnante, et on peut dire unique en Chine, avant le XXe siècle, ces témoignages personnels qu'elle propose pour sa part d'appeler des égo-documents. Égo-documents, donc des documents, égo-documents. Et ces égo-documents, je crois que la tournure est plutôt anglaise, elle les oppose à ce qu'elle définit cette fois comme des autobiographies pseudo-objectives, c'est-à-dire des autobiographies qui assoient leur légitimité en affectant la forme et en empruntant les conventions du genre supposé objectif par définition, c'est-à-dire la biographie historique Zhuan, donc ce dont j'ai parlé au début et que j'ai appelé les biographies conventionnelles. Et c'est dans ces égo-documents, donc, que l'on voit les auteurs se libérer d'un certain nombre d'inhibitions, pour reprendre le terme que j'employais au début, et pas seulement de conventions. Des inhibitions dont je crois qu'on peut dire qu'avant cela, elles étaient, pour ainsi dire, consubstantielles à l'écriture à la première personne en Chine. Et d'ailleurs, elles le sont largement restées, bien entendu, après cette époque. Comment les caractériser ou comment les définir, ces inhibitions, comme je les appelle ? Il y a déjà, et peut-être par-dessus tout, l'impossibilité de se montrer si peu que ce soit désobligeant ou même condescendant envers sa propre famille, c'est-à-dire envers ses ascendants et ses aînés. Car agir ainsi, bien entendu, serait contraire au principe élémentaire de la piété filiale. Il y a aussi la crainte de se laisser entraîner dans des arguments politiques, a fortiori de se laisser aller à la critique ad hominem des gens en place, ou qui ont été récemment en place. Ceci parce qu'il ne sied pas à un contemporain qui écrit son autobiographie de prendre parti, c'est-à-dire d'évoquer des rivalités ou des affrontements politiques auxquels il a peut-être été mêlé, même de loin. C'est en fait à l'histoire qu'il revient, ou qu'il reviendra plutôt, de le faire. Mais au-delà de tout cela, et à un niveau plus profond et plus personnel aussi, il me semble, c'est une définition que je risque, il me semble que l'inhibition qui domine l'écriture à la première personne en Chine est celle qui retient de parler négativement de soi-même, d'admettre ses faiblesses et ses erreurs ou même ses incertitudes. Et j'entends bien de le faire sincèrement. Et ceci est une distinction importante. Je veux dire, il ne s'agit pas de battre sa coulpe et de déplorer qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas su honorer ses parents autant qu'on aurait dû et qu'on n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités publiques. Car ce genre de protestation se rencontre couramment, c'est même d'une extrême banalité et c'est essentiellement de la pose. Nous l'avons vu la dernière fois, Liu Zheti, enfin j'aurais écrit quand même son nom, c'est-à-dire ce grand historiographe de l'époque des Tang, qui est le seul en fait auteur traditionnel à qui on doit un essai ou une étude consacrée, enfin un chapitre consacré spécifiquement aux autobiographies. Liu Zheti donc considérait que, nous l'avions vu, que dans une biographie sincère, et là, il ne faut pas jouer sur les mots. Donc, tout à l'heure, je parlais de sincérité. Là, en l'occurrence, j'ai bien expliqué que c'est, à mon avis, ainsi qu'il faut comprendre le mot « je » employé par Liu Zheti. Donc, que dans une biographie sincère, il convient, disait-il, de camoufler ses propres insuffisances et de mettre en valeur ses propres qualités, car c'est ainsi que l'on fera sincèrement, donc avec ce mot, honneur à ses parents et à ses ancêtres. Donc la sincérité, dans ce cas, c'est essentiellement l'expression d'un dévouement sans arrière-pensée, si vous voulez. Mais celle dont je parle ici est autre chose. Peut-être en réalité vaudrait-il mieux parler de franchise, ce qui n'est évidemment pas exactement la même chose. Tel que je le vois, la franchise, en tout cas cette sorte de franchise, c'est d'être sincère par rapport à soi-même, et non pas par rapport à des instances telles que la famille ou l'État, qui en effet requièrent votre dévotion, comme je viens de le dire, et auxquelles on est par définition subordonné. C'est pourquoi lorsque je parle d'introspection, d'examen de soi-même, de subjectivité, etc., il me semble que ce sont autant de notions qu'il convient de placer au centre de toute définition de cette nouvelle autobiographie, et je crois que le terme n'est pas exagéré, de cette nouvelle autobiographie qu'on voit apparaître donc à la fin des Ming et qui est, on ne peut plus éloigner, des canons fixés de nombreux siècles avant, mais de façon très, très influente pendant de nombreux siècles, fixés par Liu Zheti. En fait, on la voit apparaître, cette nouvelle autobiographie, comme je l'appelle, et c'est un point qui n'est pas inintéressant de souligner, on la voit apparaître dès le courant du XVIe siècle, dans un cas très particulier qui est celui de ce que Pei Wu, dans son livre, appelle des autobiographies spirituelles. C'est ainsi que les appelle Pei Wu, et en fait, il consacre un chapitre de son livre à ce thème de l'autobiographie spirituelle. Et ces autobiographies donc spirituelles sont des textes plus ou moins développés, dont les auteurs, qui s'affichent souvent comme des excentriques ou au moins comme des non-conformistes, en tout cas comme des gens qui ne sont pas comme les autres, que ce soit intellectuellement ou socialement, dont les auteurs donc décrivent une sorte de quête de l'illumination, et cette illumination peut être aussi bien bouddhiste que confucéenne, car il ne faut pas oublier que le néo-confucianisme des Ming, donc, qui était l'idéologie disons dominante dans les milieux lettrés, est extrêmement marqué par le bouddhisme et que sous certains aspects et dans certaines manifestations, la méditation, etc., les deux choses sont en fait extrêmement proches. Ce qui est important ici, c'est que les auteurs de ces textes, donc de ces autobiographies spirituelles, n'hésitent pas à s'analyser justement, à se regarder d'un œil critique, à parler de leurs revers et de leurs difficultés. Et en parlant, Pei Wu le dit bien dans ces termes que j'utilise également. Il dit, ils en parlent sans inhibition et sans enjoliver. Sans inhibition et sans enjoliver. Je donnerai quelques illustrations intéressantes de cette attitude de questionnement sur soi et surtout de détachement au regard des conventions qui régissent normalement l'écriture de l'autobiographie lorsque j'aborderai le premier des textes que je prévois de présenter un peu en détail. En fait, je l'aborderai la semaine prochaine. Comme vous verrez, il s'agit d'un ouvrage assez conséquent et même très long, et pas toujours facile à lire, qui se présente comme, techniquement, comme une autobiographie chronologique, c'est un Nienpu, sauf que son titre n'est pas Nienpu, mais indique, indique la nature, disons, d'apprentissage du parcours qui est décrit dans cette autobiographie. C'est donc non pas un Nienpu, mais un Shuepu. Autrement dit, la chronique d'un apprentissage. C'est-à-dire, en l'occurrence, cet apprentissage, en l'occurrence, n'est pas une quête spirituelle, comme dans le cas que je mentionnais à l'instant, mais plutôt celle d'une, c'est plutôt la chronique d'une accumulation d'aventures et d'épisodes au fil desquels l'auteur en vient à, et le dit, à mieux connaître et à mieux accepter les aléas de la carrière qu'il a embrassée, donc celle de fonctionnaire, bien sûr, à mieux connaître aussi la façon dont se comportent les gens, et enfin à mieux cerner ses propres aspirations et à se demander en fait s'il tient vraiment tant que cela à être fonctionnaire. Et c'est probablement dans ses réflexions à ce sujet que cet auteur se révèle le plus libre et, encore une fois, je crois qu'on peut le dire, le plus franc. Et cet auteur, donc, je vous en donne tout de suite le nom, est un fonctionnaire de la fin des Ming, dont le nom est c'est Sujetio. Sujetio. Qui a vécu entre 1574 et 1631. 1631 étant également la date de la préface de l'ouvrage donc qui a été, que Sujetio a rédigé apparemment jusqu'à sa mort. Et on peut donc situer le contenu, ces dates vous indiquent qu'on peut situer le contenu de cette autobiographie au début de cette période de transition dynastique dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, à un moment de sa carrière, M. Jutou y a été mêlé, à un moment de sa carrière, par exemple, dans les années 1620, il a été impliqué assez directement, comme assistant d'un général, aux opérations pour contenir l'avance des Mandchous dans le nord-est, enfin dans ce qu'on appelle la Mandchourie, qui était un territoire chinois avant cela. Et pendant la même période, il a connu de près, encore qu'à son corps défendant, la dictature de l'eunuque Wei Zhongxian, dont je vous mets le nom parce que je vais en parler tout à l'heure. Wei Zhongxian. Il a connu cette dictature, donc, ainsi que, il l'a vu de près, ainsi que ses terribles conséquences politiques. En termes de transition dynastique, si vous voulez, la carrière et la vie de Sujetio correspondent à peu près à ce que j'appellerais le début de la fin. Mais je parlerai plus tard de Sujetio et de son autobiographie et de tout ce que celle-ci nous révèle sur le fonctionnement du personnage et plus encore de la vision extrêmement originale qu'il nous propose de la bureaucratie, de l'administration et de la société de la fin des Ming, ou au moins de certains de leurs aspects. Dans l'immédiat, donc ceci j'en parlerai à partir de la semaine prochaine, mais dans l'immédiat je voudrais vous donner un autre exemple de cette démarche introspective et de cette franchise, de cet effort pour être franc, dont j'ai parlé en disant un mot d'un texte que je n'ai pas eu personnellement l'occasion de lire, et il n'a pas l'air facile du tout à trouver, en attendant mon prochain voyage à Harvard, mais sur lequel nous disposons d'une étude extrêmement intéressante, toujours de Lynn Struve, l'auteur que je mentionnais tout à l'heure, une étude qui est parue donc il y a 2 ans dans la revue Tongbao. Donc, vous avez également la référence sur la feuille. Nul probablement ne connaît mieux que Lynn Struve la littérature extraordinairement variée et si souvent passionnante et même excitante qu'ont produite ces quelques décennies de tumulte qu'en jargon sinologique nous appelons la transition Ming-Qing. Cette littérature, il n'est pas inutile de le préciser au passage, une proportion notable en a été assez vite dispersée au milieu des désordres et des destructions qui ont accompagné la dite transition, le changement de dynastie, et à ces circonstances peu propices à la préservation et à la publication des textes, s'est ajoutée dans les décennies suivantes la censure impitoyable du régime mandchou à l'égard de tout ce qui pouvait valoriser ou simplement rappeler ce style social, intellectuel, politique tellement original, flamboyant même, qui n'a plus été justement qu'un souvenir après la chute des Ming. Cela dit, une partie de ces ouvrages disparus ou censurés a commencé à réémerger dans le courant du XIXe siècle et plus encore après la chute des Qing sous la République. Et l'on doit précisément à Lin Shuv une bibliographie commentée d'une richesse et d'une utilité extrême de cette littérature un peu hors norme et qui jusqu'à très récemment était souvent des plus difficiles d'accès. Difficile d'accès parce que beaucoup d'ouvrages n'existaient en fait que sous la forme d'exemplaires rares ou même uniques, parce qu'en termes techniques on appelle des ouvrages rares, dispersés dans des collections peu accessibles en Chine et parfois au Japon. Simplement, la situation a changé pour notre plus grand bien, car l'industrie du reprint, qui tourne aujourd'hui à plein rendement depuis quelques années en Chine, l'industrie du reprint a notamment changé cette situation, donc si bien que toutes les bonnes bibliothèques, comme la nôtre, instituée aux études chinoises du Collège de France, toutes les bonnes bibliothèques possèdent désormais des textes qui, autrefois, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ne pouvaient être consultés qu'au prix de longs voyages et bien souvent de patientes négociations. L'article auquel je fais allusion pour y revenir est donc consacré à un de ces textes peu connus, et celui-là est en fait quasiment inconnu. Il ne s'agit pas, notez-le bien, d'une autobiographie, mais d'un autre type de texte à la première personne. C'est en effet une sorte de journal, tenu quelque peu irrégulièrement par un fonctionnaire passablement obscur, mais tout à fait obscur, de l'extrême fin des Ming, un nommé Xue Cai. Un nommé Xue Cai, dont on connaît les dates. Il est né en 1598 et mort en 1665. Et ce journal, c'est-à-dire ce qui en a subsisté, parce qu'il semble qu'il ait tenu son journal pendant une plus longue période, couvre les années de 1642 à 1646. Autrement dit, il correspond à la période qui a vu l'effondrement final de la dynastie des Ming et la conquête de la plus grande partie de l'Empire par les forces mandchoues et par leurs alliés chinois. Et en réalité, il ne faut jamais oublier que l'invasion mandchoue a été en fait a été effectuée par une armée dont la grande majorité des troupes étaient des soldats étaient des Chinois et non pas des Mandchous. Le texte est donc intitulé Xue Xiemeng Biti. Donc Xue est le nom de cet auteur que je viens de décrire. Xiemeng est son nom social, comme on dit, par opposition à Tsai, qui est son nom de baptême. Enfin, ce n'est pas vraiment le terme qui s'impose. Et l'ouvrage se présente dans son titre comme un biti, c'est-à-dire, littéralement, ces notes écrites au fil du pinceau qui étaient qui désignaient normalement des notes donc, prises sans plan préconçu, et au hasard des lectures ou des conversations. Mais dans le cas présent, bien que l'ouvrage s'appelle Biti, la forme et le contenu sont bien ceux d'un journal, donc disposé par ordre chronologique, de notes prises jour après jour par l'auteur sur ce qui lui arrive, sur ce qu'il réussit à savoir de l'actualité et sur les réflexions que tout cela lui inspire. Au moment où Xue Cai rédigeait donc cette partie de son journal, sa carrière était derrière lui. Ou plus exactement, il s'était plus ou moins arrangé pour qu'il en soit ainsi. Et comme on va le voir, c'était là, pour une bonne part, son problème. Xue Cai avait en effet passé le doctorat en 1631. Il avait occupé quelques postes subalternes dans l'administration centrale à Pékin et ensuite à Nankin, puisque, comme vous savez, sous les Ming, il y avait une capitale principale, Pékin, depuis 1420, et une capitale secondaire avec un gouvernement en modèle réduit un peu, qui était situé à Nankin. Et donc il avait servi dans l'administration centrale à Pékin et à Nankin, et après cela il avait été nommé dans un poste impliquant celui-là beaucoup plus de responsabilités, qui était celui de préfet de la préfecture de Kaifeng, c'est-à-dire la capitale de la province du Henan. Voilà, tout le monde connaît Kaifeng. Kaifeng n'était pas seulement une très grosse préfecture. À ce moment-là, la région que cette préfecture administrait se trouvait sous la menace directe des chefs rebelles qui sillonnaient la moitié nord de la Chine depuis quelques années, à la tête d'armées composées essentiellement de paysans chassés de chez eux par la famine et avec les armées impériales à leur trousse. Xue Cai avait donc passé à Kaifeng deux années difficiles pendant lesquelles il s'était trouvé en conflit constant avec les généraux envoyés par la cour pour exterminer les rebelles, et au bout de deux ans, il était tombé malade et il avait tout bonnement abandonné son poste pour rentrer chez lui au Jiangsu, la province dont justement Nankin est la capitale. Au moment où débute son journal, donc en 1642, Xue Cai est donc retourné à une vie de lettré fonctionnaire, retiré des affaires publiques, ou de fonctionnaire lettré, retiré des affaires publiques, vivant sur ses terres et anticipant de finir tranquillement ses jours avec sa famille, à laquelle il était, semble-t-il, extrêmement attaché, et en s'adonnant aux activités sociales et littéraires typiques de son milieu. Or, comme son journal l'illustre abondamment, et tout ça je vous le dis à partir de l'article de l'Instru, puisque je n'ai pas lu le texte, comme son journal l'illustre abondamment, les événements ne lui ont pas laissé le loisir de cette paisible retraite. L'Empire, en effet, est alors en train de littéralement se déliter. Et jour après jour, Xue Cai est assailli de nouvelles angoissantes, voire tout simplement catastrophiques. Les luttes fratricides à la cour, des révoltes ça et là, bien sûr les revers militaires qui se succèdent en Mandchourie, la destruction complète de Kaifeng, son ancienne préfecture qui a été inondée et ensuite capturée après la destruction des digues du fleuve Jaune par un de ses chefs rebelles dont je parlais tout à l'heure. Ceci se passe à l'automne 1642, etc., etc. C'est comme si l'étau se resserrait peu à peu autour de la région prospère et hautement cultivée et civilisée où vit Xue Cai, et où, plus inquiétant encore, les gens n'ont pas l'air de s'en faire et se livrent, dit-il, déplore-t-il, à leurs occupations et à leurs plaisirs, comme si de rien n'était. Nous reviendrons d'ailleurs à propos d'autres textes sur cette étrange ambiance du Jiangnan à la veille de la grande catastrophe. Puis, en avril 1644, c'est la nouvelle de la chute de Pékin, aux mains d'abord du fameux Li Zicheng, donc ce très célèbre rebelle, qui c'était celui qui avait justement détruit complètement Kaifeng. Li Zicheng, donc qui s'empare de Pékin en avril 1644, et c'est le même jour plutôt, le dernier empereur Ming, c'est une histoire célèbre, se suicide sur ce qu'on appelle aujourd'hui la colline du charbon, juste derrière le palais impérial. Et ensuite, quelques semaines plus tard, c'est la prise de la capitale par les Mandchous, cette fois-ci, qui en ont expulsé Li Zicheng, avec l'aide d'un ancien général Ming. Or, au moment où arrivent ces terribles nouvelles, et alors que toutes les énergies étaient requises pour organiser la défense dans le sud et essayer de sauver le régime, et je parle ici du régime dit des Ming du Sud, qui s'étaient réfugiés à Nankin et qui prétendaient continuer le combat, ou au moins contenir les Mandchous dans la moitié nord de l'Empire, à ce moment donc où toutes les énergies sont requises, Xue Cai s'abstient. Malgré les sollicitations, il refuse de reprendre du service. Il ne cherche pas même à participer à la défense locale dans sa propre sous-préfecture. Tout cela alors que un homme dans sa position, et qui plus est un homme dont les ancêtres avaient brillamment servi la dynastie, un tel homme donc avait une obligation absolue de loyauté. En juin 1645, les Mandchous franchissent le Yangtze, ils s'emparent de Nankin et le régime des Ming du Sud, en tout cas cette partie du régime des Ming du Sud, est balayée. Avant d'être définitivement anéanti, cependant, je note au passage, enfin je vous le rappelle au passage, plusieurs régimes s'appelant Ming du Sud, enfin considérés comme faisant partie des Ming du Sud, survivront encore dans quelques enclaves périphériques, en fait pendant une bonne quinzaine d'années, où des princes Ming tentent d'organiser la résistance. Contrairement à d'autres, Xue Cai ne cherchera jamais à rejoindre ses foyers de loyalisme. Mais contrairement à beaucoup d'autres, il refusera absolument de se soumettre aux nouveaux maîtres de la Chine, donc aux Qing, qui, à ses yeux, ne seront jamais que des esclaves. Enfin, il emploie le mot « lu », qui était le mot, si vous voulez, une façon méprisante de désigner les barbares, qui signifie littéralement un prisonnier de guerre réduit en esclavage. Donc, dans tous les textes de la fin des Ming, qui ont été ensuite censurés sous les Qing, les Mandchous, les Mongols, etc., étaient appelés loups, et donc il fallait effacer tout ça, ou alors si on avait des textes comme ça chez soi, on risquait de se faire couper la tête. Donc, pour lui, les Mandchous ne seront jamais que des esclaves, même s'ils sont montés sur le trône à Pékin. Après avoir donc tenté de se cacher avec sa famille, il décide en fin de compte de se réfugier dans un monastère bouddhiste et de se faire moine, ceci afin de ne pas avoir à marquer sa soumission au Qing en adoptant la coiffure, c'est-à-dire la tonsure du devant du crâne et la queue, ainsi que le vêtement imposé à tous les Chinois de sexe masculin par le nouveau régime et imposé avec la dernière brutalité. C'est là un épisode sur lequel j'aurai certainement l'occasion de revenir. Xue Cai est donc devenu ce qu'on appelle un yimin, c'est-à-dire littéralement un sujet survivant de la dynastie des Shu, un loyaliste, si vous voulez. Sauf que lui, son loyalisme est plutôt passif. La catégorie des yimin est importante dans l'histoire des Ming et des Qing. Tout ceci, donc, c'est à l'arrière-plan. Or, si j'ai exposé rapidement ces circonstances, c'est parce que l'écho qu'on en trouve dans le journal de Xue Cai constitue apparemment un exemple extrême de cette propension à l'examen de soi-même, à l'auto-analyse, pourrait-on dire, et aussi à la critique de soi-même, à l'expression de la mauvaise conscience, dont j'ai déjà dit un mot, et que l'on rencontre à des degrés variables dans beaucoup des crises autobiographiques de la fin des Ming et des années immédiatement postérieures. Et aussi, et cela est moins connu, du XIXe siècle. Dans le cas de Xue Cai, c'est plus que de la mauvaise conscience, en fait, c'est un sentiment de culpabilité qui semble avoir été véritablement obsédant. En tout cas, le titre de l'article de Lin Struve, que vous avez sous les yeux, indique bien de quoi il retourne. « Dreaming and self-search », autrement dit, les rêves et rêves et interrogations sur soi-même. Il se trouve en effet que pendant cette période de sa vie, Xue Cai a fait beaucoup de rêves, très frappant pour lui, et qu'il les a scrupuleusement notés dans son journal. Noter et essayer d'interpréter ses rêves, c'était une pratique en fait assez répandue à l'époque, semble-t-il, mais, et pas seulement à cette époque d'ailleurs, mais spécialement à cette époque, semble-t-il, mais dans le cas de Xue Cai, cela va plus loin. Les rêves, parfois très compliqués et très bizarres, qu'il relate dans le plus grand détail, et que Lin Struve tente bravement d'analyser, n'ayant pas vu le texte lui-même, il m'est difficile de dire dans quelle mesure Xue Cai lui-même essaye d'interpréter ses propres rêves, je ne sais pas s'il le fait. Ses rêves, donc, semblent tous tourner plus ou moins autour du sentiment de culpabilité qui le taraude en tant que serviteur de la dynastie ayant abandonné son poste, s'étant coupé du service de l'État alors que ça aurait dû être sa vocation naturelle, et finalement ayant refusé de se joindre aux ultimes tentatives de sauvetage. Ce qui semble du coup exceptionnel dans ce document, c'est que ce sentiment de culpabilité s'exprime à deux niveaux. Il s'exprime au niveau inconscient, celui du rêve, donc dont Xue Cai s'efforce de rendre compte sans rien omettre, et il s'exprime au niveau conscient dans toutes les arguties qu'il déploie pour justifier son abstention. Il dit, il écrit dans son journal à différents endroits, et là encore je me base sur les citations faites par Lin Struve, il dit qu'il est de toute façon un très mauvais fonctionnaire et qu'il n'aurait rien pu faire d'utile, qu'il est plus important de protéger sa lignée familiale afin qu'un jour ses descendants puissent servir l'État. Il dit aussi que les ministres qui servent le régime sont de toute façon des gredins corrompus et donc qui ne veut pas se participer, etc., etc. Mais ces raisonnements qu'il se tient ne l'empêchent pas de se qualifier lui-même d'indigne individu. Et dans les citations que j'ai vues, au lieu d'employer simplement son prénom pour dire « je », il s'affuble du qualificatif très banal d'ailleurs de « poussia », c'est-à-dire « mauvais élément ». Donc il dit, pour dire « je », pour parler de lui, pardon, oui, il écrit « Tsai », son prénom, « Puxiao Tsai », moi, indigne individu. Et je suis convaincu que dans ce cas, dire « Puxiao » n'est pas une simple forme, comme ça l'est souvent, une simple formule de modestie. Moi, vous savez, dans les traductions... parodique du chinois, on dit toujours moi, infect, mauvais individu, qui vous parle, etc. Donc c'est ce genre de formule, Boussia. Mais je crois que dans ce cas, c'est beaucoup plus profond. Il l'emploie sans arrêt. Et surtout, il ne s'adresse à personne. Il se parle à lui-même. Il ne faut pas l'oublier. Donc, tous ces raisonnements qu'il se tient pour essayer de se justifier ne l'empêchent pas de se qualifier de la sorte et ne l'empêche pas non plus de se décrire quelque part comme, et là je traduis une formule qui est reproduite par Linstruve, comme un ministre orphelin condamné par son crime qui s'est contenté d'observer la situation depuis l'extérieur, depuis le côté en quelque sorte. Et cette formule que je traduis par ministre, ce n'est pas très facile à traduire d'ailleurs, ministre orphelin, c'est ce mot Kuchen. Donc quelqu'un qui se retrouve sans maître, sans souverain, etc., qui donc tout est fait, qui par ses crimes a été anéanti ou tout est fait, Guchen, c'est une formule assez forte. Donc il se traite de cela. Et je dirais que se négativiser de la sorte, si on peut dire, et encore une fois, exprimer ce que Linstruve appelle son aliénation, ce ne sont pas du tout des choses rares dans la littérature à la première personne de la fin des Ming. Nous en rencontrerons d'ailleurs d'autres exemples, encore que nettement moins virulents et obsessionnels que celui de Xue Cai. C'est en fait à cause de son côté extrême dans l'autocritique, s'inscrivant, il est vrai, dans l'une des phases les plus dramatiques de l'histoire de la Chine moderne, est l'une de celles qui ont causé le plus de crises de conscience, justement, aux membres de l'élite. C'est à cause de cela qu'il m'a semblé valoir la peine d'en dire un mot, ce que j'ai donc pu faire, encore une fois, grâce à l'étude de Linstruve, où, en outre, la dimension du rêve est mise en évidence de façon, je trouve, assez spectaculaire. Il y aurait encore deux choses à souligner brièvement avant de passer au point suivant de mon exposé. La première chose que je ne développe pas pour le moment, mais sur laquelle j'aurai plusieurs fois à revenir, c'est qu'il fallait, et il allait de soi, que le journal ou le fragment de journal de Xue Cai, comme d'ailleurs la quasi-totalité des journaux tenus par des lettrés chinois, et il y en a une quantité considérable, il allait de soi que de tels textes étaient destinés à rester à l'état de manuscrit. Le texte de Xue Cai, par exemple, n'a été publié qu'en 1939 par ses descendants, après avoir subi, semble-t-il, des modifications assez substantielles dans sa présentation. C'est donc l'exemple même de ces documents intimes, ou au maximum réservés à un très petit cercle de proches, dans lesquels les auteurs pouvaient, si vous me passez l'expression, se lâcher d'une façon qui eût été inconcevable dans un texte imprimé et publié, et dont la circulation deviendrait de ce fait impossible ou au moins très difficile à contrôler. Pour y revenir, le manuscrit non destiné à la publication est le lieu par excellence où l'on peut surmonter les inhibitions de nature avant tout sociale, mais profondément intériorisées en Chine, qui vous retiennent en temps normal d'étaler vos faiblesses devant les autres, ce qui reviendrait, on l'a vu, à porter atteinte à la réputation de votre nom et donc de vos ancêtres. Et bien sûr, sur un autre plan, le manuscrit à circulation restreinte, conservé dans la famille, c'est aussi le lieu naturel où l'on exprime son sentiment sur la situation politique, où l'on critique les gens au pouvoir, etc., etc. Il est vrai que s'abstenir de le faire publiquement par la voie de l'imprimé est moins une affaire d'inhibition, pour reprendre ce terme, que d'élémentaire prudence. En tout cas, nous verrons que les autobiographies les plus importantes, dans la perspective qui m'intéresse, étaient pour ainsi dire toutes des manuscrits à usage privé, dont la plupart n'ont été publiés que très longtemps après la mort de leurs auteurs. La seconde chose que je voulais souligner avant de passer à la suite, c'est que la pratique de l'introspection et de l'auto-examen n'était pas limitée à la tenue de journaux intimes à la fin des Ming. Sans vouloir développer encore, il me semble que cette attitude que je viens de décrire à travers l'exemple particulièrement démonstratif de Xue Cai, que cette attitude ne peut pas être dissociée de la pratique extrêmement répandue dans certains milieux confucéens de la première moitié du XVIIe siècle, des milieux qu'on pourrait dire à la fois fondamentalistes et activistes, cette pratique donc consistant à s'examiner collectivement au sein de cénacles, de clubs ou d'académies rassemblés des lettrés unis par les mêmes idéaux. On essaye d'analyser, donc on se met ensemble et on essaye d'analyser ses bonnes et ses mauvaises actions ou ses bonnes et ses mauvaises pensées et on les soumet à la critique et à l'appréciation de ses pairs. Et de même, il est difficile de séparer ces pratiques auxquelles je viens de faire allusion et qui sont tellement typiques de l'intense vie associative qui mobilisait les lettrés de la fin des Ming et auxquelles on pourrait encore ajouter les conférences publiques de maîtres invités qui attiraient toujours beaucoup de monde. Il est difficile donc de séparer tout cela des pratiques personnelles, cette fois-ci, de nouveau, de comptabilité de ces bonnes et mauvaises actions, de comptabilité de ces bonnes et mauvaises actions ou encore de ses mérites et démérites, donc c'est les mérites et les démérites, ou les fautes. Cette comptabilité que l'on tenait dans diverses sortes de journaux intimes ou de petits calepins qu'on gardait avec soi. Et ces pratiques de comptabiliser ses propres mérites et ses propres démérites, en fait, s'inspirer directement, ça c'est assez connu, de la théorie religieuse, cette fois-ci, de la rétribution pourrait-on dire calibrée et donc quantifiable. Tel péché vous coûte tant de démérites, etc. Oui ? Oui, c'est possible. Oui.
Il n'y a pas une sorte d'autodénigrement.
Pas dans le nom.
Pas dans son piti,
non.
Pas dans le piti, mais pourquoi il dit chier ?
Ah ça, je ne sais pas, c'est le nom qui s'est donné. Oui. Oui, je n'avais pas pensé à ça. En effet, comme c'est un nom qui s'est donné, il a probablement une intention. Mais j'y avais pas, vous avez raison de le dire, j'y avais pas réfléchi. Donc je parlais de ce système de rétribution calibré et quantifiable des actions, donc tel péché ou telle bonne action vous coûte tant ou vous rapporte tant, qui a connu une extraordinaire popularité à partir de la fin du XVIe siècle. C'est donc, pour me résumer, tout un ensemble de pratiques et parfois de croyances dont il faut tenir compte lorsqu'on parle de ces attitudes qui se révèlent entre autres dans les autobiographies ou dans les journaux. Je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que les documents autobiographiques du type de ceux que je viens d'évoquer, donc les journaux, comme celui de Xue Cai, et parfois les autobiographies chronologiques qui recueillaient la substance de ces journaux, que ces documents donc s'inscrivent, encore une fois, au sein d'une tendance très générale à la même époque à l'introspection et à l'autocritique, et d'une tendance, devrais-je ajouter, où les manifestations d'anticonformisme et d'individualisme exacerbés, auxquelles j'ai fait allusion, restaient malgré tout minoritaires, même si ce sont elles qui tentent aujourd'hui à retenir en priorité notre attention et notre intérêt. Quoi qu'il en soit, toutes les pratiques que je viens d'évoquer, et surtout tous les écrits qu'elles ont pu produire, étaient d'abord et avant tout le fait de l'élite, dirais-je, socio-intellectuelle, c'est-à-dire de ces lettrés profondément imbus de culture classique, dont la vocation naturelle était de passer des examens et d'entamer des carrières publiques, même s'il arrivait à certains de se rebiffer contre de telles obligations, de ces lettrés, enfin, dont on pourrait croire à lire une bonne partie de la littérature sinologique, occidentale en tout cas, qu'ils résument à eux tout seuls la société chinoise et que les autres ne sont que des figurants. Il va de soi qu'il n'en est rien. En revanche, ce que l'on ne peut pas contester, c'est que les lettrés, disons, les gens qui ont reçu une éducation de haut niveau, qui ont au minimum passé ou tenté de passer le premier degré des examens mandarinaux, et par-dessus tout, qui en retirent leur identité, on ne peut pas contester que ce sont les lettrés, que les lettrés dominent massivement le corpus écrit, à tout le moins le corpus écrit qui nous a été conservé. Or, les lettrés n'étaient pas les seuls Chinois capables de s'exprimer par écrit, ni bien sûr de réfléchir, loin de là. Et surtout, un certain nombre d'évolutions importantes se sont produites pendant le dernier siècle des Ming, dont la plus significative, je crois, en l'occurrence, est ce que certains auteurs n'hésitent pas à appeler aujourd'hui la révolution de l'imprimerie à la fin des Ming. La révolution de l'imprimerie à la fin des Ming. Bien sûr, l'imprimerie existait depuis longtemps en Chine, mais à partir du XVIe siècle, on voit émerger dans un certain nombre de centres, dans différentes provinces, une industrie du livre qui travaille pour le grand public, lequel, en l'occurrence, est un public essentiellement urbain, et qui produit à grande échelle, enfin à grande échelle, tout est relatif, à grande échelle pour l'époque, des publications bon marché, considérées en fait comme totalement médiocres par les bibliophiles, des publications visant à la fois à populariser la haute culture auprès du grand public, celui qui ne jouit pas du statut de lettré, et à le fournir, ce public, en ouvrages pratiques et en littérature de divertissement. C'est en effet la grande époque, donc ça commence dans la première moitié du XVIe siècle déjà, c'est la grande époque des encyclopédies de la vie quotidienne et des guides et aides de tout genre. Et c'est aussi l'époque où les romans et les nouvelles rédigées en langue vernaculaire se diffusent dans tous les milieux ayant accès à l'écrit. Les lettrés sérieux affectent bien sûr de ne pas lire ces choses immorales, mais il est clair que la plupart en raffolaient. Dans la mesure où l'élargissement du public de lecteurs devrait en toute logique impliquer un élargissement du public des scripteurs, ou pour le dire plus simplement, dans la mesure où la culture de l'écrit semble s'être considérablement répandue dès le XVIe siècle, risquons le mot, semble s'être démocratisée, on est en droit de se demander s'il n'a pas été également possible un certain degré de popularisation, ou encore une fois de démocratisation, de l'écriture autobiographique, quelle qu'en soit la forme. C'est donc le second point que je voulais traiter aujourd'hui, que je ne traiterai d'ailleurs pas en entier pour des raisons de temps. Parler de démocratisation est bien sûr tout à fait relatif. Là encore, d'ailleurs, je suis parti d'une observation de Pei Wu dans son livre, Pei Wu qui n'emploie pas le mot, je le précise quand même. Pei Wu, en effet, remarque à un endroit que le problème de la loyauté envers le régime sous lequel on sert a beaucoup travaillé certains auteurs d'autobiographie qui avaient été mêlés au conflit entre factions extrêmement violentes de la fin des Ming, des années en particulier 1620 et 1630, et dont plus d'un de ces auteurs s'est retrouvé à croupir en prison dans l'attente d'être exécuté après avoir été accusé justement de déloyauté envers l'empereur. Il dit aussi la même chose, donc cette préoccupation et cette obsession du problème de la loyauté, il dit aussi la même chose de ceux qui ont survécu à la chute des Ming, sans s'être sacrifiés sur le champ de bataille ou alors sans avoir eu le courage, comme certains de leurs collègues, de se donner la mort plutôt que d'être les sujets d'une nouvelle dynastie. Et là, nous retrouvons un peu le problème de Xue Cai, encore que Xue Cai lui-même, comme nous l'avons vu, a choisi une sorte de voie médiane, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, en prenant la tonsure et en s'enfermant dans un monastère, plutôt que de se soumettre ou de se donner la mort. Mais ce sont les premiers, ceux qui ont été accusés et emprisonnés sous les Ming, donc avant la chute du régime, qui me concernent ici. Parlant de rédiger son autobiographie en prison, et alors qu'on est promis à l'exécution, le modèle était évidemment Wen Tianxiang, donc ce loyaliste de la fin des Song du Sud, dont j'ai parlé, je crois, la dernière fois. Donc, Wen Tianxiang était le modèle, et en outre, il est réputé, nous l'avions vu aussi, être l'inventeur, ou le premier auteur connu en tout cas, de l'autobiographie chronologique. Et c'était un modèle auquel tout le monde se référait. Or, parmi les auteurs des Ming qui ont rédigé leur autobiographie en prison et dans l'attente du jour fatal, Pei Wu cite un personnage a priori inattendu, dans la mesure où il appartient non pas à la classe mandarinale, ce n'était pas un lettré, mais à un groupe totalement dévalorisé par la société, à savoir les eunuques du palais. Ce personnage, dont le nom est Liu Zhuyu, avait été un des proches collaborateurs d'un autre eunuque, le célèbre Wei Zhongxian que j'ai mentionné tout à l'heure. Ce Wei Zhongxian, comme on sait, enfin, c'est très célèbre, avait réussi, après 1620, à exercer pendant quelque temps un pouvoir quasi-dictatorial sur tout l'Empire. En effet, l'empereur régnant, qui était un adolescent inconsistant, qui s'intéressait principalement à ses hobbies, c'était un ébéniste de grand talent, semble-t-il, donc l'empereur était totalement manipulé par Wei Zhongxian. Et Wei Zhongxian avait été à l'origine de purges sanglantes contre les fonctionnaires et les lettrés qui s'opposaient à lui. Et ses victimes, dont la plupart avaient été les membres du célèbre parti Tonglin, donc ce sont un peu, en partie, ces fondamentalistes confucéens dont je parlais. La forêt de l'Est, qui était le nom donc d'une académie et puis d'un quasi-parti politique, à cette époque, les victimes de Wei Zhongxian, donc les Donglin, ont été par la suite et sont encore aujourd'hui en fait célébrés comme des martyrs. Quoi qu'il en soit, Liu Zhuyu avait reçu une très bonne éducation et c'est à ce titre qu'il avait été engagé comme assistant par Wei Zhongxian, donc au sein du palais, parmi les eunuques du palais impérial, Wei Zhongxian, lequel ne savait ni lire ni écrire. Wei Zhongxian est chassé du pouvoir et contraint de se suicider dès l'accession au trône du nouvel empereur, de l'empereur Chongzhen, c'est-à-dire dans le courant de 1627. Et c'est donc après avoir été accusé d'avoir été complice des crimes de Wei Zhongxian que notre auteur, Liu Zhuyu, passe de longues années en prison et finit par être condamné à mort, semble-t-il en 1636. Et en fait, on ignore si et quand il a été exécuté. En tout cas, l'ouvrage dont je vais parler tout de suite contient encore des références à l'année 1641, donc il a croupi en prison de longues années. La raison pour laquelle je parlais de démocratisation, un terme comme un autre, c'est qu'au fond de sa prison, l'eunuque Liu Zhuyu fait exactement la même chose que certains lettrés fort distingués qui s'étaient trouvés au même endroit et avec les mêmes perspectives d'avenir au moment des purges de Wei Zhongxian quelques années plus tôt. Il rédige son autobiographie dans le but de se justifier devant l'histoire et, espère-t-il, d'être gracié. En dépit de son ton très apologétique, en fait, on peut dire que c'est un plaidoyer autant qu'une autobiographie, ce document, cette autobiographie de Liu Zhuyu, est remarquable à beaucoup d'égards. D'abord, Liu Zhuyu revendique son identité. Il révèle ses origines et l'histoire de sa famille alors qu'il les avait soigneusement cachées pendant toute sa carrière d'eunuque au palais impérial afin de ne pas déshonorer les siens. Et il explique comment, alors qu'il appartenait à une famille très honorable d'officiers héréditaires et qu'il avait reçu comme enfant une éducation qui lui aurait permis de préparer les examens, il s'était lui-même castré à l'âge de 15 ans, à la suite, dit-il, d'un rêve étrange, immonde. On se demande ce qu'il a bien pu rêver, mais il ne le dit pas. Or, il va de soi qu'avoir un fils eunuque, ça ne pouvait être que la honte suprême pour une famille honorable de serviteurs de l'État. Donc, pendant toutes ces années de service au palais, Liu Zhuyu a donné une fausse identité. D'ailleurs, Liu Zhuyu conclut son autobiographie plaidoyer en s'accusant non pas de crime contre l'État, car il espère avoir convaincu son public et l'empereur, en fait, dont il espérait qu'il lirait le texte, de sa totale loyauté envers les souverains qu'il a servis, mais en s'accusant bruyamment d'avoir manqué à la piété filiale qu'il devait à ses parents et à ses devoirs envers son frère cadet. Mais surtout, et c'est aussi pour ça que j'en parle, le texte de Liu Zhouyu est représentatif d'une tendance caractéristique de l'époque et appelée à un bel avenir. Je veux parler des autobiographies qu'écrivent alors certains lettrés, victimes des affrontements politiques et promis à l'échafaud, dans lesquelles ils cherchent non seulement à se justifier eux-mêmes au regard de l'histoire, mais où ils affirment volontiers vouloir offrir un témoignage objectif, sinon toujours désintéressé, sur leur époque en général. Et cela sous la forme de ce qu'on appelait des choses vues et entendues. Et ce couple, enfin, cette paire de caractères est extrêmement fréquente et on la rencontre dans beaucoup d'ouvrages, dans le titre de beaucoup d'ouvrages de ce genre, qui sont donc des témoignages, donc des tiennes, ouais, choses vues et entendues. Le Tianwen, ou Tianwen Lu, hein, récit de choses vues et entendues, est quasiment une sorte de sous-genre, mais pas nécessairement, mais en général, une forme d'autobiographie, si on veut. Donc, ils affirment vouloir faire ça, et c'est exactement, d'ailleurs, je le dis en passant, le même format que dans le cas de l'ouvrage que je n'aurai pas le temps de commencer à présenter aujourd'hui, que j'avais déjà cité, qui est le Li Nianqi, donc cette chronique des années successives, dû à un auteur un peu plus tardif, mais qui n'était lui pas un lettré et qui n'avait aucune visée apologétique. Enfin, nous parlerons du Linetti plus tard, la prochaine fois en fait. Mais l'ouvrage de Liu Zhouyu est d'une forme différente, même si le contenu montre la même combinaison d'autobiographie et de témoignages. Je veux dire que les choses vues et entendues dont il parle ne sont pas insérées dans le déroulement d'une autobiographie chronologique, c'est-à-dire année après année. Elles sont exposées dans un ouvrage plus vaste dont l'autobiographie proprement dite constitue le chapitre 23 sur un total de 24. Cette autobiographie elle-même porte le titre « Lei Chen Zhi Xu Lue Tie ». Lei Chen Zhi Xu, bon, c'est un mot que nous avons déjà vu, c'est l'autobiographie tout simplement, et « Lue Tie » signifie simplement... une sorte de présentation résumée, ou chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont l'auteur se désigne lui-même dans le titre, c'est-à-dire comme un ministre ou un serviteur de l'État ou de l'empereur, Chen, qui est enchaîné, qui est dans les chaînes. Donc il écrit en tant que prisonnier. Et l'ouvrage dans lequel est insérée cette biographie est intitulé, lui, le Zhou Zhongzhi. Et alors là, je avoue que j'ai un peu un problème pour comprendre le sens de ce titre, qui n'est comment expliqué d'ailleurs par aucun des auteurs qui parle du Zhou Zhongzhi. L'expression Zhou Zhong signifie, Zhou c'est simplement un traité, un récit, Zhou Zhong signifie trouver un compromis, trouver un juste milieu. Et donc ça pourrait être une allusion au rôle que cet auteur prête aux eunuques dans son texte, c'est-à-dire, contrairement à ce dont on les accuse, des gens qui ont toujours cherché à trouver une voie raisonnable et à conseiller de façon modérée l'empereur. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Et en fait, je me suis demandé si Zhong, ici, le milieu, donc, n'était pas à lire dans son emploi très courant pour désigner le palais intérieur, là où habite l'empereur et où servent les eunuques. Mais si je considère que ça veut dire cela, que ça désigne le palais intérieur, dans ce cas, je ne suis pas très sûr de la façon dont traduire le premier mot, Zhou, qui signifie considérer, réfléchir, etc. Bref, il y a une petite hésitation là-dessus. Peu importe. Ce qui importe, c'est que le Zhou Zhongzhi est un exposé systématiquement organisé de l'histoire des derniers règnes. Des trois derniers règnes, en fait, vus à travers le rôle qui ont tenu les principaux eunuques du palais. Donc c'est une histoire vue à travers les yeux des eunuques, si on veut. En même temps que c'est une description extrêmement détaillée des institutions et des coutumes du palais, de l'intérieur donc, telles que Liu Zhouyu les a lui-même connues pendant ses longues années de service. Il s'agit donc d'un témoignage extrêmement précieux, irremplaçable même, et qui a été très demandé dès sa rédaction sur des institutions et sur des pratiques dont les histoires officielle et dont la littérature normale, disons, ne dise pour ainsi dire rien. Le texte a circulé longuement sous forme de manuscrit avec des tas de variantes, semble-t-il, mais n'a en fait été imprimé qu'au XIXe siècle. Mais là encore, le texte est apologétique. Je veux dire, là encore, dans le traité sur les eunuques et sur le palais, et pas seulement dans l'autobiographie proprement dite. Le texte est apologétique car, s'il prétend à l'objectivité, il est manifestement orienté dans un sens favorable à la corporation des eunuques, tellement vilipendée dans la littérature correcte, et que Liu Zhuyu décrit au contraire comme dévouée et hautement compétente. Et il y a aussi beaucoup d'autobiographies, en fait, dans le corps de l'ouvrage lui-même, dans du Zhou Zhongzhe, je veux dire en dehors du chapitre 23, car l'auteur non seulement parle en témoin oculaire, mais encore se met lui-même fréquemment en scène. Il parle aussi de son père, à l'occasion de campagnes militaires auxquelles celui-ci a été mêlé, et on peut en fait dire que, d'une certaine manière, la totalité de l'ouvrage est mise au service de la stratégie suivie par Liu Zhuyu, qui est de prouver que, en dehors de quelques brebis galeuses, qui peuvent assurément causer beaucoup de dommages, les eunuques du palais sont des serviteurs loyaux de la dynastie et que lui-même, Liu Zhuyu, n'a en aucune manière été un complice de Wei Zhongxian, ce dont il était bien sûr accusé. Cela dit, ce que j'ai baptisé du terme un peu facile de démocratisation, ce n'est bien sûr rien de plus en l'occurrence que ce fait que désormais des gens regardés de haut et même de très haut par l'élite sociale et intellectuelle du pays puissent très naturellement s'emparer de genres prestigieux, ici l'autobiographie rédigée en prison dans la glorieuse lignée de Wen Jianxiang, pour raconter leur propre vie, pour apporter leur propre témoignage et pour défendre leur honneur. Pour Pei Wu, qui consacre 3 pages de son livre au cas de Liu Zhuyu, le fait qu'un personnage aussi humble ait pu écrire son autobiographie alors que cet exercice fort en vogue à l'époque était jusque-là quasi exclusivement réservé aux lettrés, ce fait démontre à quel point, dit-il, la fin des Ming différait des époques précédentes, sans aucun doute. Mais ce qui reste en tout cas certain, c'est que pour les membres de l'élite, un eunuque restera toujours quelqu'un de suspect. Pour ne donner qu'un exemple, on trouve un commentaire sur le Zhou Zhongzhe dans le journal d'un lettré et fonctionnaire métropolitain très distingué ou très prestigieux de la fin du XIXe siècle, donc beaucoup plus tard, un certain Li Zeming, qui en donne une appréciation tout à fait positive comme document historique. Li Zeming est assez connu. Et surtout, un historien moderne de Hong Kong lui a consacré un livre qui est tout à fait passionnant sur la vie des fonctionnaires de la capitale à la fin des Qing, la vie quotidienne. Donc, ce Li Zeming apprécie positivement l'ouvrage de l'eunuque de la fin des Ming, et il dit même, compliment ultime pour un lettré, que Liu Zhuyu sait vraiment bien écrire. Mais il glisse quand même quelque part, un eunuque, un homme de basse condition, dit-il ou non la vérité, on ne peut jamais en être sûr. Et Liu Zhuyu lui-même maintient en quelque sorte la distance. Dans sa préface, en effet, il se met dans la position du personnage modeste qui a des choses importantes à dire, mais qui ne pourra les dire que de façon vulgaire. Ainsi, après avoir expliqué qu'il s'en tiendra aux appellations familières en usage chez les eunuques pour parler de la personne de l'empereur, il ajoute « Les stylistes se riront nécessairement de la vulgarité de mon langage, mais pour les historiens, il reste bien sûr la sincérité de mon témoignage. » Et là, voilà encore un autre mot que je traduis par sincérité. L'authenticité, si on veut, c'est Dieu. Dieu. Et évidemment, s'il y a une certaine coquetterie de la part de Liu Zhuyu à dire la façon dont je parle, c'est Li. Autrement dit, j'emploie des mots du jargon du palais, si vous voulez. Alors que, en fait, c'est, comme le reconnaissait Li Zeming, un très bon écrivain. Une autre manière de parler de démocratisation, peut-être, ce serait de constater que pendant les dernières décennies des Ming, la vie privée, ou disons la vie de tous les jours, semble envahir parfois les autobiographies, et surtout les autobiographies chronologiques, toujours beaucoup plus détaillées, comme je l'ai dit. C'est déjà vrai du Zhou Zhongzhe, avec ses descriptions de la vie quotidienne à l'intérieur du palais, en tout cas dans certains de ses chapitres, mais ça l'est encore bien plus donc du Li Nianqi, cet ouvrage que j'ai déjà que je mentionnais tout à l'instant, dont je vous ai déjà donné, je crois, le titre, et qui signifie tout simplement chronique des années successives. Li Nianqi. Dès le début de la prochaine séance, je vous donnerai une brève description. Brève parce que plus tard, après avoir parlé de l'autobiographie de Xu Zhetiao, je reviendrai sur le Li Nianqi beaucoup plus en détail. En tout cas, si j'en parle ici, c'est parce que cette autobiographie chronologique, qui est fort longue et qui est, je dois dire, extraordinairement intéressante, est elle aussi l'œuvre d'un homme du commun. Pour être plus exact, c'est l'œuvre d'un membre d'une famille mandarinale déchue, qui n'a jamais eu la prétention, lui n'a jamais eu la prétention d'être un lettré, et son style de vie à cet auteur, les activités, les préoccupations dont il parle, apparaissent en fait, et c'est encore un terme que je risque, apparaissent passablement, dirais-je, plébéiennes. C'est donc de cet aspect particulier du Li Nianqi et des circonstances qui expliquent qu'en effet le fils d'une famille mandarinale puisse avoir une vie, faire des petits métiers, disons commerçant, instituteur, agriculteur, etc. Et nous présenter dans ce genre noble qu'est l'autobiographie chronologique, la vie, je dirais, au ras de la ville et au ras des rizières dans la région de Shanghai. Et de ceci donc, je dirais un mot d'abord rapidement la prochaine fois et ensuite beaucoup plus en longueur plus tard dans l'année. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.